Mais où on était tout ce temps à rêver, à vouloir que, à rager pour, à serrer dans. Où on était, où on était. Mais où on était tout ce temps, broyant l'espoir aux assommoirs, les jours heureux à vivre mieux. Où on était, où on était. Poche percée et coups de trou, cause perdue et crise de mou, en abandon dans l'arrobase, sans arrobase et sans question. Où on était, où on était. S'espérait, se cherchait, se désirait, son cœur sous la main, dans les petits matins, où on était, où on était. Ne plus être là, ne plus être comme ça, avec le temps passe pas sûr et la vie si dure, où on était. Où on était, mais où on était tout ce temps, à rêver, à vouloir que, à rager pour, à serrer dans. Où on était, où on était. On sort à peine, ça y est, tout est déjà de travers. La grande ours là-bas traîne au ras des arbres son allure de bête efflanquée, et tout qui se barre comme un attelage impossible. Il y a du jeu dans les essieux du ciel désaxé, et les autres là, le centaure, la croix du sud, et Castor et Pollux qui tanguent, et les lumières pantelantes. Ah, grande nuit somptueuse au fossé du ciel, comme une reine saoule. La terre aussi prend de la gîte, ça se barre, je vous dis, là-bas où c'est le vide noir. Qu'il se retienne à la porte, celui qui sort dans cette nuit, lui-même chancelant, piètre vigie à sa une qui tangue, au mur de sa maison, s'il est d'aplomb, qu'il s'accote, et considère ce qu'il pense être une débâcle, illusion, ou vrai chaos dans le fracas du monde. Lointains incertains, peur du lendemain, quand la vie est au moi et le moi est au moi, plus de rêves d'idées que des rêves ridés, quand les cerveaux dispos massacrent l'avenir, l'orgie de réussir roule au caniveau, du pillage des matières font les jours sanguinaires, du pillage des matières font les jours sanguinaires, quand les misses tatouées des plages télévisées occupent l'horizon, ce n'est pas sans raison, car l'imaginaire est affaire financière. Car l'imaginaire est affaire financière. Quand les murs de la honte un peu partout se montent, quand les fontes glaciaires changent les atmosphères, c'est que le bruit des bottes sur la ville emporte. C'est que le bruit des bottes sur la ville emporte. C'est que le bruit des bottes sur la ville emporte. C'est que le bruit des bottes sur la ville emporte.
Ici le Poitou. Suivez et vivez la mobilisation contre les méga-bassines avec Méga Radio. Le couteau suisse anti-bassine.
Non mais évidemment si tu le colles ça... Voilà.
Les yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfoncent dans les rapides, mais ils savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta, c'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village. Et je croyais rêver. C'est étrange, dit le petit prince, tout est prêt. La poulie, le seau et la corde. Il rit. Toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit, comme gémit une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. Tu entends, dit le petit prince, nous réveillons ce puits, et il chante. Et moi, c'est... c'est ce puits que j'ai dans les yeux quand je pense à Chantal et Caddy. Chantal et Caddy, je les ai rencontrés il y a une dizaine d'années. On s'est pas vus longtemps, pas souvent, mais c'était tout doux. Leur histoire, c'est pas du bruit et de la fureur, c'est juste de la douceur, de la tendresse. Quand ils se regardent, il y a tellement d'amour dans leurs yeux. Il y a eu un peu de violence dans leur histoire, mais pas grand-chose. C'est comme si ça n'avait pas eu vraiment d'importance. Moi, il fallait vraiment que je tende l'oreille pour m'entendre raconter leur histoire. Et là, c'était un moment où j'avais de la chance, parce que je pouvais prendre ce temps-là, le temps de me faire raconter des histoires à l'oreille. Chantal et Caddy. La première qui a voyagé, c'est Chantal. La migration, c'est pas tous les jours dans le même sens. Elle avait 40 ans, c'était le moment où la vie lui permettait ça, elle s'offre un cadeau, un vieux rêve de petite fille, de l'âge où on écoute Le Petit Prince avec la voix de Gérard Philippe, le désert. Voilà. Elle était disponible, elle pouvait s'offrir ça. Alors, Tamanrasset, le bout du sud de l'Algérie, en plein cœur du Sahara. Et là, rêvez ou pas, imaginez ou pas, elle rencontre Caddy. Caddy, il est guide touristique. C'est lui qui vient accueillir les voyageurs, les rêveurs de France, d'Europe, et qui les emmène se frotter à leurs rêves sous les étoiles du désert. Et c'est quand même pas rien, cette histoire-là de guide. Parce que, donc, quand les Européens vont rêver en Afrique, dans le désert, il y a des guides pour les accueillir. Vous imaginez l'inverse ? Des guides pour les rêveurs africains quand ils arrivent en France ? Alors, ici à droite, vous avez la préfecture qui se charge d'organiser des voyages culturels pour vos enfants afin qu'ils découvrent leur pays d'origine. Là, à gauche, vous avez le chantier de construction où vous pourrez travailler comme des Arabes en étant payé au black. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et puis, ce soir, afin de vous faire découvrir les spécialités locales, nos amis de la police viendront vous faire une petite démonstration de contrôle aux faciès. La spécialité de Caddy, c'est le pain de sable. C'est une galette que tu prépares à l'étape, et tu l'enfouis dans le sable, tu fais le feu par-dessus, et c'est comme ça qu'elle cuit. Évidemment, ça prend un peu de temps. Alors pendant ce temps-là, tu chantes les chansons du désert. Tu racontes les histoires du désert. Comment tu veux résister à ça, honnêtement ? Eh bien, elle n'a pas résisté, Chantal. Elle a tout plaqué. Elle est partie. Elle s'est installée là-bas, au fin fond du désert avec Caddy. Ils ont monté une petite affaire tous les deux pour accueillir les touristes. Ils sont mariés en se conformant aux usages, sans s'y conformer tout à fait, mais suffisamment pour que ça ait l'air d'eux. Elle a découvert l'islam, elle a trouvé qu'il y avait de la poésie là-dedans. Et puis, ils ont trouvé leur endroit. leur endroit. Il y a des gens qui disent qu'on a tous un endroit quelque part sur la Terre, un endroit où on est chez nous, un endroit où tout est nous, il n'y a plus de questions, il n'y a plus que de l'harmonie. Et si jamais tu peux partager ça avec celui ou celle que tu aimes, ça s'appelle le paradis. Et Chantal et Gadi ont trouvé leur paradis, une petite oasis, à 2 jours de Chameau des premiers voisins, des nomades touaregs. Dans cette oasis, ils ont bâti leur maison, de leurs mains. Ils ont cultivé leur terre et leur silence. Et le réveil a été brutal. Le réveil a été très brutal. Un jour, ils ont vu débarquer dans leur oasis une jeep couverte de soldats dépenaillés. 2 jours plus tard, une deuxième jeep. Et puis en quelques semaines seulement, leur oasis, leur paradis à 2 jours de Chameau des premiers voisins, est devenu le point de passage obligé de tous les soldats perdus du Sahara. Ceux qui descendaient des maquis des années noires de l'Algérie. Ceux qui fuyaient la guerre éclair de BHL en Libye. Et puis les Touaregs sans état. Et puis tous ceux qui essayent simplement de se rassembler parce que la misère est trop noire et l'Europe trop bien fermée. Évidemment, c'était pas ça qu'ils voulaient, Chantal et Gadi. Alors sans doute, ils se sont embrassés une dernière fois sous les étoiles. Sans doute, Gadi a fait un dernier pain de sable. Et puis, ils ont fermé la porte et ils sont partis. Je ne sais pas si vous voyez dans Le Petit Prince ce dessin où Le Petit Prince est assis sur une ruine de mur et où il parle au serpent. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. Tu as du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps. Alors en fait, de venin, ça a été un petit avion, un petit coucou. On est 4 dedans, c'est plein. Pour aller jusqu'à Alger. Et là, arrivé à Alger, ils attendaient un autre avion pour aller en France. Alors Chantal, elle avait tout bien organisé, elle avait déjà trouvé une maison, elle avait trouvé un boulot, enfin en tout cas, elle avait un entretien d'embauche le lendemain à Rochefort. Et ben, ils n'ont pas pu redécoller d'Alger. Et c'était pas à cause d'une nouvelle loi en Europe restreignant l'émigration depuis l'Afrique, c'était pas à cause d'événements qui se seraient passés à ce moment-là en Algérie. C'était parce que, à l'autre bout de la planète, un volcan était entré en éruption. Un volcan avec un nom imprononçable, vous vous souvenez de ça ? Et qu'il avait recouvert complètement l'Europe d'un nuage de poussière, les avions étaient cloués au sol, vous n'avez pas un qui voulait. Alors ils sont sortis de l'aéroport d'Alger, ils ont regardé vers le nord, vers l'Europe qui ne voulait pas d'eux. Et puis ils sont retournés, ils ont regardé vers le désert, vers leur petit paradis là-bas. Et sans doute, ils ont levé les yeux et ils ont cherché l'astéroïde B612, l'astéroïde du Petit Prince, qui sait que les volcans... Il faut les ramener. Qui sait ce qui peut se passer avec un volcan mal ramené ? Bon, ils ont fini par arriver quand même. Ils sont installés à Niort. C'est de là qu'elle venait, Chantal. C'est pas très loin d'ici. Hein. C'est là que je les ai rencontrés. Elle, évidemment, elle est arrivée trop tard pour son entretien d'embauche. C'est lui qui a trouvé du boulot en premier. Chantal, elle m'a dit, de toute façon, un grand black costaud, ça trouve toujours du boulot. Et ben, vous savez ce qu'il a trouvé comme boulot, lui ? L'homme du désert, l'homme bleu qui connaît les grains de sable par leur prénom. Il a été embauché chez un horticulteur. Il fait pousser des fleurs. Son boulot, c'est de faire naître des roses. À ce point-là de coïncidence avec le Petit Prince, il y a eu un moment, forcément, où je me suis demandé si par hasard Chantal n'était pas une héritière obscure de... Mais non. Non, ils sont là, tous les deux, dans leur petite maison. Ils se regardent. Et c'est bon.
Ont une utilisation de la lettre Z qui nous
fortement. Merci à la personne qui suit là-bas. Elle nous déplaît fortement. Déjà parce que ce sont des fascistes, et puis parce que on ne peut pas s'approprier une lettre de l'alphabet comme ça sous prétexte qu'on est fasciste. Alors on s'est dit, on va écrire un petit rap pour rappeler un peu que la possession de cette lettre de l'alphabet ne leur appartient pas, pas plus que le reste.
Fuck! même.
C'est chaud avant le lever du soleil.
Après le matin, il y a pas trop
de soleil. C'est ce qu'on appelle vite le barricade.
Putain.
Ça, c'est rien avant.
Ouais, c'est chaud. Là, mais...
Non, on va chanter d'abord.
Ça va chaud.
J'ai pas la...
Les schlagos subtils sur l'air de ça y est, je bave, ils ont gagné. Ça y est, je bave.
On va la fermer au mieux, j'écrivra la chaque, ça fait de moi quelqu'un de chelou. Je te jure, j'ai pas les pieds si dégueu. Je t'entendrai cabane avec une allure bizarre, des fois je te rappelle, on s'en tue les dents nous, je mets le plus souvent dans le fond. Tant qu'il n'y a pas les keufs au rendez-vous, et ça fait mal, mal, mal de penser que ça va s'arrêter un jour. Mais je jure que ma calabre tient, moi je partant pour un tout. Et ouais, j'adore, j'adore, dans tes coups, tes gros dieux quand tu dors. Hier soir, t'as dit, ça y est, c'est sûr, ça va se mouffer. Et ça m'a rempli d'amour. J'ai fait des cabanes et du feu et de la vigie jusqu'à pas d'heure. J'ai fait des jeux de la grille qui redonnerait pour des canards et des fous de canettes qui nous donnent des vrais gros bleus. Et j'ai fait que des ennemis et mon cœur capitaine et des cœurs. Et pour les faire chier, j'aurais mis n'importe quoi. À commencer par mes amis qui est ma vie. Et ça fait mal, mal, mal de penser que tout ça, ça va s'arrêter un jour. Mais je te jure que la calabre tient, moi je suis partant pour un tout. Et ouais, j'adore, adore, adore t'écouter quand tu dors. Hier soir, ça dit, ça y est, c'est sûr, ça va se bouffer. Et ça m'a rempli d'amour. J'ai fait du... Clac, 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 clac,
clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac,
clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac,
clac, clac, clac, clac, clac,
Je donne envie de pas s'élever. Il y a 12 000 milliards de trucs qui valent le coup. Et voilà.
Valent le coup.
Ça fait mal, mal, mal de penser comme ça va s'arrêter un jour. Mais je te jure, tant que la calabre tient.
Summoning strength for the war wound, it takes superpowers. Burned out after a fiery 5 days, wide awake. Eat out your tree and sleepless away.
apart from his role playing, and that mother of an afro must be fed. Oh Lord, what's he gonna say? You don't know me, but I wanna tell you that I think you're way above the easy cheerleader. Oh, and by that wizard, men are out there dying in defense of your right to these childish games. No one forced those soldiers to enroll for murder. $1,000 today. I gotta go, it's getting late. And baby, you ain't got the legs to catch a cold.
Radio, benvenuto.
Capsule sonore, tournée montée, AH, de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, no border.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions. Chewing-gum, blackjack et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
Et on est jeunes, et révolutionnaires. On est jeunes, et fiers, et révolutionnaires.
Tu vas assez. Ah oui,
la traversée des luttes de l'eau. Du 2 septembre au 8 septembre 2024. À l'initiative du collectif Bassino Merci et dans le cadre de la saison 7 des Soulevements de la Terre, une délégation a pris la route de la Venise verte du Marais Poitevin, où se déroulera le camp climat de Venise.
C'est le jingle de la meilleure radio de la traversée de l'eau.
Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici.
Cette traversée des luttes pour l'eau, qui fait écho à la caravane zapatiste pour l'eau et pour la vie de 2022, a pour objectif d'alerter sur les enjeux d'accaparement et de pollution des eaux, de renforcer nos liens entre résistance populaire face au durcissement des violences d'État et de construire un mouvement de défense de l'eau par-delà les frontières nationales. Mardi 3 septembre, de Limagne à Serpenson. Pour la deuxième journée de la traversée, la délégation se dirige vers Grenoble, où elle est accueillie le midi par le collectif Stop Micro, à l'université autogérée une base d'organisation politique en plein cœur du campus universitaire de Grenoble. Après un accueil chaleureux et une pièce de théâtre pleine d'humour sur les enjeux de la technologie dans la transition écologique, les représentants de Stop Micro ont pu présenter leur lutte contre l'extension programmée des usines de puces électroniques STMicro et Soytech sur des passerelles agricoles. L'usine de STMicro, qui est parmi les plus gros pollueurs du département, utilise l'eau potable de l'Isère. Elle consomme à elle seule l'équivalent de ce que consomment tous les habitantes et habitants de la ville de Grenoble, et rejette ensuite l'eau souillée au milieu chargé de PFAS et de métaux lourds. Du marais aux montagnes alpines, l'accaparement de l'eau par les géants industriels pose les mêmes enjeux, ceux de la question de la priorisation des usages et de la maladaptation au changement climatique. Vous entendrez tout à l'heure le collectif Stop Micro détaillant les intérêts des secteurs soi-disant verts de ces entreprises à gourdes connectées aux services militaires et drones et autres armements industriels.
Powerful technology megatrends are changing the face of our world. 5G, electrification, and artificial intelligence promise to revolutionize our daily lives and transform entire industries, such as automotive, retail, energy, mobility, health, and education. None of this would be possible without semiconductors. The chips and the cutting-edge substrates they are built on are powering this transformation. At Soytech, we are enabling this revolution and accelerating the transition. We design and manufacture innovative semiconductor materials. Our smart cut technology combines different layers of semiconductor materials at an atomic scale, unlocking unique properties tailored to a wide range of applications. Our engineered substrates bring critical advances in device intelligence. With this critical positioning comes a clear mission and responsibility to make our products the cornerstone of a more sustainable future. With a shared passion for innovation, our creative talents and engineers are ready to rise to the challenge.
Eh ben, on est sur le campus de la ville de Grenoble, et plus précisément à l'université autogérée. Donc c'est un lieu qui propose des cours autogérés, et aussi il y a une cantine collective tous les lundis. On est le collectif Stop Micro, et on est une lutte qui s'est montée initialement pour protester contre les extensions de deux usines de microélectronique, donc qui sont ST Microélectronics et Soytech, qui se situent à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. C'était principalement sur la question de l'eau que le mouvement s'est fédéré au début, parce que c'est des usines qui consomment énormément d'eau. Ce qui est produit dans les usines, donc c'est travaille beaucoup avec les industries des automobiles, notamment les voitures électriques, tout ce qui est internet des objets, donc objets connectés, notamment on a pu trouver des gourdes connectées, connectées à une appli qui dit qu'en boire, ou alors des pommeaux de douche connectés qui permettent de faire des économies d'eau. Et en fait, ils se présentent comme travaillant à la transition écologique, aussi dans les pour optimiser la consommation de ces objets, aussi dans les énergies renouvelables. Et en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que vraiment ces industries-là, elles se sont saisies de ce concept de transition écologique pour ouvrir un nouveau marché de l'énergie, de la consommation. Et en fait, quand on a notre smartphone, par exemple, dans les mains, il est tout beau, tout lisse, et on ne se rend pas du tout compte de l'impact que ça a. Mais tous ces objets, ils ont un impact énorme, comme on le disait tout à l'heure. En fait, il y a un besoin en métaux qui est énorme, auquel la planète ne peut pas du tout subvenir, et qui se fait sur le dos des populations dans des pays, enfin, avec des pratiques vraiment coloniales. Et on essaye de montrer que la transition écologique, elle ne peut pas passer par le numérique et encore moins par l'industrie de la microélectronique.
Il y a deux dimensions. Du coup, il y a de l'eau, parce que cette eau-là qui est accaparée et puis polluée, rejetée polluée dans l'Isère, elle est utilisée pour fabriquer des puces électroniques. Et dans notre mot d'ordre, on indique qu'on y préfère de l'eau, qui est quelque chose de vital, plutôt que des puces. Et à travers ce mot d'ordre, on attaque aussi un petit peu tout le mythe de l'innovation, de la croissance, de la technologie qui va améliorer nos vies, etc. On attaque surtout le monde connecté, la numérisation de nos vies, qui est vendue par les pouvoirs publics comme les entreprises comme quelque chose de super positif et un grand progrès. Et nous, on y voit non seulement un désastre écologique, mais en plus une dégradation de nos conditions d'existence.
Le processus de fabrication des puces, c'est qu'elles vont être gravées à plusieurs reprises avec des produits chimiques. Et entre chaque phase de gravage avec un produit chimique différent, il faut rincer ces puces avec de l'eau qui doit être ultra pure, d'où l'implantation des usines à Grenoble, parce qu'en fait c'est de l'eau qui provient directement des glaciers des Alpes, parce qu'elles elles se fournissent sur le réseau d'eau potable de la ville de Grenoble. Et c'est aussi pour ça que l'eau ensuite elle ressort polluée, parce qu'à chaque fois ils rincent un produit chimique différent et l'eau elle est ensuite rejetée dans l'Isère.
Un des centres névralgiques de cet écosystème, c'est le Commissariat à l'énergie atomique, donc un laboratoire public. Le slogan de ce laboratoire est assez représentatif de l'esprit et du modèle grenoblois, donc c'est de la recherche à l'industrie. En fait, dès le départ, donc, quand il s'est implanté en 56, le but c'est de développer des technologies pour qu'ensuite des start-up puissent les reprendre et que ça favorise l'économie de la région, etc. Donc, et par exemple, ST Microelectronics et Soitec sont deux entreprises qui sont issues de fusion et qui à l'origine étaient des start-up issues du CEA et qui ont pour particularité aussi des technologies à la base pensées pour le militaire. Par exemple, en fait, toutes deux, c'est surtout pour l'armement nucléaire et aussi l'énergie nucléaire que les technologies ont été pensées et développées au CEA. Et ensuite, elles ont essaimé, comme ils le disent, à travers ces startups et des entreprises. Et en fait, c'est un petit peu représentatif de ce modèle, dans le sens où il y a une collaboration assez étroite entre des industries, surtout en microélectronique, et des universités. Donc là, on est sur le campus universitaire, il y a un labo derrière nous d'informatique qui travaille en partenariat avec plein d'entreprises, qu'elles soient d'armement ou pas. Et donc voilà, c'est un peu ce triptyque qu'on met souvent au jour, c'est le militaire, l'université, et avec surtout son aspect recherche, et les industries.
Il y a un concept qu'on dit qu'une technologie, elle est duale, dans le sens où elle est développée par l'armée, mais que pour la rentabiliser, parce que pour son développement, la recherche, tout ça, ça nécessite énormément de financement, et pour la rentabiliser, en fait, on va la vendre ensuite comme un produit commercial, comme par exemple les drones, en fait, qui sont utilisés par l'armée, et notamment, on a retrouvé une puce qui vient de ST dans un drone qui avait été utilisé par l'armée russe en Ukraine. Et on sait que l'écosystème grenoblois et ST Microélectronique fait notamment beaucoup de liens avec Israël. Donc on retrouve probablement des puces de ST dans des drones ou de l'armement high-tech en Israël.
Une grosse partie de notre activité, c'est sur justement ces enquêtes, l'enquête critique, pour à la fois savoir, en savoir plus sur l'aspect de la pollution, de l'accaparement, des terres aussi, des produits chimiques, quels sont les impacts sur l'écosystème, etc. Et à la fois pour connaître tout ce à quoi sont destinés ces produits technologiques. Et c'est là qu'on a beaucoup découvert des choses les plus choquantes du coup sur l'armement qui est aujourd'hui utilisé pour tuer. Et surtout un peu la vie connectée, les trucs absurdes, les gourdes connectées, etc. Et donc en fait, on a établi beaucoup d'enquêtes pour établir ces faits. Et ensuite, une grande partie de nos activités, c'est de les rédiger dans des tracts, dans des brochures qu'on distribue sur les marchés pour s'adresser vraiment à tout le monde. On essaie d'être... de pas avoir un discours qui soit illisible ou trop intellectuel, vraiment de s'adresser à toute personne qui pourrait s'en dire concernée, des gens proches des usines, des gens inquiets pour des questions internationales, enfin n'importe qui quoi, et on les diffuse à travers des tractages, des conférences. On a fait un petit peu un tour de France en faisant des conférences publiques dans plusieurs villes.
Et du coup, on a fait aussi des tractages à destination des employés des usines sur ces questions de l'armement notamment. Et ça a débouché, il y a eu un appel de la CGT ST Microélectronique avec 300 signataires pour demander à la direction de cesser ses liens avec Israël.
Et une grande partie de les infos, on les prend sur les sites des entreprises, sur les sites des conseils régionaux. Enfin, c'est un petit peu de fouiller sur Internet, quoi. On essaie de prendre les chiffres officiels qui sont déjà assez choquants et assez parlants d'eux-mêmes. Les entreprises, elles consomment autant d'eau potable que la ville de Grenoble. Et ça, c'est leurs chiffres à eux. On essaie de reprendre les leurs. Pareil pour ce qui est des polluants, des usages, etc. Mais il y a certains endroits où c'est plus compliqué, notamment au niveau des destinées de ces produits, parce que c'est pas des choses qui sont très publicitées par les entreprises, elles sont pas forcément obligées de le faire, donc on doit fouiller, aller demander à des gens qui y travaillent pour savoir qu'effectivement oui, la majorité des puces ont été utilisées pour faire des robots industriels, pour faire de la reconnaissance faciale à ce moment-là. Enfin, on doit creuser un petit peu en demandant aussi à pas mal de monde.
IFAS, justement, c'est une enquête qu'on a commencé très récemment, puisque c'est très récemment que l'Agence régionale de santé elle a obligé toutes les entreprises à publier leurs émissions de PFAS. Et c'est là où on s'est rendu compte que ST Microélectronique, on parle plus de ST Microélectronique parce qu'en fait, elle est beaucoup plus grosse que Soitec. Mais après, en proportion, ça reste à peu près la même chose, mais Soitec est quand même beaucoup plus petit. Et que du coup, ST Microélectronique se retrouve parmi les entreprises les plus émettrices de PFAS d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même assez forte sur les PFAS.
Alors juste, c'est quoi les PFAS ? Excuse-moi, parce que je... Oui.
C'est des polluants éternels. Donc le gros scandale, c'était les poêles Tefal, notamment. C'est des particules de fluor, en fait. Il y en a plein de différentes, et du coup, ça cause des cancers, enfin plein de maladies. Notamment, le cas emblématique, c'est Arkema et Daikin à Pierre-Bénite, à Lyon, où les habitants et habitantes autour ont des taux de PFAS et vraiment très très élevés. Et du coup, c'est utilisé par ces industries parce que vu tous les produits chimiques qu'elles utilisent, elles sont obligées de protéger leurs tuyaux avec justement ces PFAS qui sont en fait ça permet de protéger les tuyaux. Ouais.
Il y a des composants comme l'azote et le phosphore qui sont rejetés dans des quantités assez astronomiques comparables à ce qui se passe en Bretagne et qui a déclenché la prolifération des algues vertes. Il y a aussi d'autres polluants très persistants comme le cuivre, l'aluminium, etc. Et en fait une myriade d'autres dont on ne sait pas encore exactement quels sont leurs effets sur l'Isère, mais aussi qu'est-ce que ça fait un petit peu ce cocktail de différents éléments qui vont rester, peut-être s'accumuler, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'études pour savoir à quel point ça va impacter la rivière, les écosystèmes, mais on voit que les pouvoirs publics sont toujours trop dépendants et trop soutiens de ces industries pour vraiment leur mettre des freins. Et en fait, depuis le début de leurs agrandissements progressifs, systématiquement, à chaque fois que les usines font des demandes pour augmenter leur seuil d'émission de certains polluants, en fait, la préfecture, elle les accompagne dessus, quoi. Elle va faire une étude pour prouver que ce sera bon de mettre autant.
Il faut savoir que, en fait, tous les chiffres, c'est les usines elles-mêmes qui les produisent. Et on a une source interne qui nous a fait savoir que pour les émissions dans l'air, en fait, il y a des détecteurs à la sortie des cheminées qui, lorsque le taux de polluants émis dépasse le taux réglementaire, ça se met à sonner, tout ça, il faut trouver une solution. Et du coup, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de diluer en fait en insufflant encore plus d'air pour que les taux, parce que c'est des taux par volume, ne dépassent pas les taux réglementaires. Et du coup, on peut se douter qu'ils font pareil avec l'eau, en juste rajoutant plus d'eau pour pouvoir diluer les polluants, quoi.
En tout cas, sur les PFAS, c'est clairement les industries de la chimie qui sont les plus grosses émettrices. En Isère, c'est l'usine Vancorex qui est quasiment au même niveau que Arkema Pierre-Bénite. Donc ST Microélectronique, c'est bien en dessous, il faut le dire, mais ça reste trop dans tous les cas, dans le sens où c'est éternel, on ne sait pas où ça se retrouve après, etc. La Vancorex rejette dans le Drac et ST Microélectronique dans l'Isère, qui se rejoignent juste après Grenoble pour rejoindre le Rhône.
Concernant la plateforme chimique donc, qui est au sud de Grenoble, justement, les prélèvements qui ont été faits sur la nappe phréatique qui est juste en dessous de cette plateforme, c'est qu'elle est devenue complètement impropre à toute utilisation, mais c'est même pas qu'elle est plus potable, c'est juste qu'elle est complètement polluée. Et en fait, il y a un phénomène de la nappe d'eau potable qui est juste à côté. Et il y a un risque de reversement de la nappe polluée dans la nappe d'eau potable, ce qui fait que les usines sont obligées par les pouvoirs publics à constamment pomper cette nappe pour pas que le niveau dépasse et crée un reversement et qui enverrait toute l'eau polluée dans la nappe d'eau potable. Donc on est un peu en danger.
Et du coup, effectivement, ces risques de pollution permanents, parce qu'il y a aussi les usines qui sont classées Céveso seuil haut, donc en cas d'accident, en cas d'incendie, enfin c'est surtout à cause des produits chimiques qui risqueraient de causer une catastrophe, quoi. Donc il y a un petit peu cet aspect de danger permanent, de pollution diffuse, il faut reconnaître que ces impacts sont un petit peu minimes par rapport aux impacts de la chaîne de production du numérique plus globale. C'est important de rappeler, souvent on a l'argument que c'est mieux d'avoir ces usines ici plutôt qu'ailleurs parce qu'il y a des normes, etc. Mais en fait, construire des usines ici ne va pas faire qu'il ne va pas y avoir tout aussi d'autres usines qui vont apparaître dans tous les autres pays du monde, parce que par exemple, tous les métaux rares dont on a besoin pour fabriquer du numérique, tout le silicium qui est utilisé par ST et Soitec, et tous les produits chimiques, en fait, c'est une chaîne de production qui est mondiale et qui ravage des villages entiers en Chine, en Afrique, etc. Et de toute façon, en fait, une fois que les circuits électroniques sont gravés ici, ils repartent directement en Asie afin d'être assemblés dans des villes-usines, en Chine surtout. En fait, c'est juste un petit maillon qui a le seul avantage d'avoir beaucoup de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il est en France. Et le reste, c'est aussi un carnage dans tous les autres pays du monde. Et ça finit dans des décharges à ciel ouvert dans des pays d'Afrique comme le Ghana.
À travers cette lutte, de taper local, mais vraiment de penser global. Parce que, en fait, c'est vraiment des géants multinationaux auxquels on s'attaque. Et c'est aussi pour ça que ça fait vraiment sens de s'inscrire dans cette traversée des luttes pour l'eau. C'est parce que c'est faire du lien entre toutes les luttes autour de l'eau et surtout dépasser les frontières. Notamment, le lien avec l'Italie, il est super intéressant parce qu'en fait, ST Micro, c'est une entreprise franco-italienne. Et il y a une extension qui est en cours à Catane de la même ampleur que celle-là de Grenoble. En fait, on a besoin vraiment de tisser ce réseau-là pour pouvoir lutter efficacement contre ces industries.
Chaque année, on essaie d'avoir une action qui soit un petit peu le point d'orgue de la mobilisation. Donc, en 2023, la première année du collectif, on a fait une manif devant les industries, donc à Crolles, donc à 20 km de Grenoble. On est passé devant, on était à peu près 1000 à manifester, dans une ambiance un peu conviviale, avec des prises de parole à la fin, une cantine, etc. L'année suivante, comme le sujet avait rencontré beaucoup d'écho, on a décidé de renforcer l'intensité. On a fait cette fois 3 jours de mobilisation avec des conférences à Grenoble et aussi une manifestation dans Grenoble, cette fois non pas pour cibler juste les usines mais aussi la presqu'île scientifique sur laquelle on a le CEA dont j'ai parlé au début. Pour cibler là où se fait l'innovation, enfin là où se prennent les décisions, où sont créées les technologies qui vont par la suite commettre des ravages écologiques et transformer la société. Et donc c'est sur ces labos de recherche qu'on a voulu insister. Il y a eu aussi, pour monter un petit peu en intensité, le blocage de cette presqu'île scientifique, donc un blocage routier pour mettre un frein justement à ces laboratoires. Un autre type d'action de terrain sur lesquels on essaie d'être, c'est le terrain du juridique, parce qu'on n'est pas seulement focalisé là-dessus, mais ça peut être un outil qui peut nous aider, qui peut permettre de freiner l'extension, etc.
Suite à la mobilisation, ST Microélectronique, qui a tellement l'habitude de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics, avait commencé son extension en construisant les bâtiments sur en fait, les terrains qui appartiennent à la communauté de communes. Donc facile pour eux, ils ont juste eu à construire. Et en fait, ils ont été saisis par la Commission nationale du débat public parce qu'ils n'ont pas du tout respecté la procédure qui doit passer par une enquête publique, tout ça. Du coup, ils ont été obligés de stopper de réaliser cette enquête publique, ce qui leur fait perdre plus d'un an. Et alors nous, on croit pas du tout dans ces enquêtes publiques et dans la Commission nationale du débat public, tout ça, mais c'est juste que ça leur fait perdre du temps, beaucoup d'argent, et aussi ça nous permet de, sur ces un an, de pouvoir lutter pour aller plus loin, quoi. Et du coup, il y a aussi la petite sœur Soitec qui est aussi en train de s'étendre. Ils ont porté le projet en leur nom de faire une extension de 11 hectares sur les terres agricoles qui sont autour. Donc c'est un peu les dernières terres agricoles puisque le Grésivaudan vraiment est en train de se bétonner à grande allure. Et notamment des agriculteurs dont un qui allait perdre sa maison, tout ça. Et juste avant le week-end d'avril, ils ont annoncé, Soitec a annoncé suspendre son extension pour un an. Mais bien sûr, en fait, on a appris cet été qu'ils avaient repris l'extension, mais en portant un projet différent avec une Isère Aménagement, enfin les pouvoirs publics, quoi. Donc pas sous le nom de Soitec. Et du coup, là, on est là-dessus parce que bah il y a ce projet d'artificialisation des terres et d'expropriation des paysans et surtout d'agrandissement de l'usine. Et on essaye de lutter contre.
Juste pour finir, du coup, ça ressemble à quoi à l'accueil d'une étape de la traversée? Parce que du coup, on en est à côté et je me dis, ça parlera un peu aux gens qui écoutent.
Et ben pour l'instant c'est la préparation du repas. Toutes les terres fertiles n'ont pas été encore bétonnées autour de l'Isère, parce que enfin on est sur un campus qui a justement bétonné et asséché les marais alors qu'il y avait des jardins ouvriers avant. Mais il reste des petits bouts de terrain qu'on cultive avec un champ collectif dont l'objectif est de nourrir un petit peu les luttes. Et donc là justement on a ramassé les patates, les courges, les figues, etc. du jardin, et on prépare à l'université autogérée un grand repas pour les accueillir. On a même on a réservé des places, les tables à l'ombre, sous les sapins. Il y a juste les moustiques qui sont un petit bémol.
D'accord. Tu voulais rajouter un truc?
On a très hâte que le convoi arrive, on les attend.
Thanks to our leading technology and patent portfolio, as well as our customers and partners, we are advancing the next generation of products at the heart of sustainable life experiences. Electric mobility, AI, edge computing, 6G, and more. We design. We set standards. We innovate. Push boundaries. We are Soitec.
Pardon pour cette interruption, j'ai eu un petit problème technique. Alors, qui est fidèle au poste ce soir, hein? Oui, en tout cas, je l'espère, parce que vous en entendrez des vertes et des pas mûres ce soir.
Si le Marais Poitevin est la Venise verte, Venise est sans doute le Poitou bleu.
C'est moi, oui, c'est moi le plus fort.